Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
D'une innovation militaire à un outil grand public, on vous parle aujourd'hui d'une invention qui a bouleversé notre rapport à l'orientation et ajouté du piment à la route des vacances, le GPS. Si cet outil est presque devenu indispensable dans nos mouvements du quotidien, il faut décrire tout son parcours et ses améliorations pour se rappeler que nous avons dans notre poche un joyau de technicité, joyau que se partagent aujourd'hui plusieurs constellations de satellites au cœur d'enjeux économiques et stratégiques de plus en plus importants. GPS, vous êtes arrivé à destination, c'est l'itinéraire que nous allons suivre tout au long de cette heure. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter l'histoire de cette invention du GPS, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Christine Angonin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de physique à Sorbonne Université, membre du laboratoire Système de référence temps et espace à l'Observatoire de Paris. Nous sommes également en studio avec Quentin Morcrette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, enseignant-chercheur contractuel à Cergy-Paris Université. Vous êtes membre du laboratoire PLACE. Et nous sommes enfin en ligne avec Jean Maréchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme navigation OCNES. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose d'écouter la voix d'un grand explorateur qui sait parfois passer de cartes. Il s'agit de Théodore Monod qui, en 1994, dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture, parlait de sa découverte du GPS.
Maintenant qu'on a ce qu'on appelle des GPS, des appareils de positionnement par satellite, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'on ne peut plus se perdre maintenant. Autrefois, on pouvait se perdre. C'était curieux, c'était amusant même. Mais on ne peut plus se perdre maintenant. On a en permanence, les marins connaissent ça depuis longtemps. Dans le désert libique, ils ont leur appareil de positionnement par satellite sur le tableau de bord de la voiture. Ils savent en permanence où ils sont. Ça vous donne des chiffres, naturellement. Tant de degrés, tant de minutes, tant de secondes. De latitude nord, tant de degrés, tant de minutes, tant de secondes. De longitude est, par exemple. Alors on prend ces chiffres, on les transcrit, on les pose sur une carte. Alors il faut espérer que la carte est exacte, mais elle ne l'est pas toujours.
Voilà la voix de Théodore Monod qui était un petit peu optimiste, on ne peut plus se perdre, on peut quand même encore se perdre et tout le monde en a déjà fait l'expérience avec le GPS. Quentin Morcrette, avant de parler de l'invention du GPS, on peut quand même rappeler deux, trois petites choses. On n'a pas attendu cette invention-là pour essayer de trouver son chemin de façon efficace. Alors à partir de quand finalement on s'est reposé sur des cartes papier pour tracer des itinéraires, pour aller d'un point A à un point B?
Alors, ouais, en effet, le GPS et l'utilisation du GPS avec une carte, c'est l'héritier d'une longue tradition de représentation cartographique, à la fois de cartographie des réseaux et cartographie de l'itinéraire. Je pense que dans un premier temps, on peut en quelque sorte identifier peut-être trois outils historiquement utilisés pour se déplacer. D'un côté, la liste itinéraire, donc c'est la liste littéralement de lieux à suivre pour se rendre d'étape en étape d'un point A à un point B, qui est quelque chose qui se développe depuis très longtemps, mais en France on a les premiers cas avec la guide de Charles Estienne, qui est quelque chose qui se développe qui est publié au XVIe siècle. Et puis un petit peu plus tard, on voit l'apparition de cartes d'itinéraire, donc c'est-à-dire des cartes qui représentent uniquement un trajet d'un point A vers un point B et qui ne représentent pas l'ensemble du réseau. Ça, c'est quelque chose qui commence à se développer de manière un peu plus importante, surtout dans les pays anglo-saxons, à partir du XVIIe siècle. Et puis en France, un peu plus tard, au XVIIIe siècle, on verra les cartes d'itinéraire spécifiques se développer. Et à côté de ça, il y a les cartes du réseau routier, qui, elles, commencent à être utilisées encore un petit peu plus tard, et en fait massivement à la fin du XIXe siècle.
Jean Maréchal, dans cette archive et dans ce que disait Théodore Monod aussi, il y avait un point important, c'est que avant même l'idée du GPS, il y avait cette idée capitale de se positionner dans l'espace. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on calcule sa position dans l'espace. On parle de latitude, on parle de longitude. C'est pas des choses aussi faciles que ça à mettre en évidence.
Effectivement, pour se positionner dans l'espace, on a besoin de trois informations. La longitude, la latitude, donc on se positionne dans une surface horizontale, mais on a aussi besoin de l'altitude lorsqu'on n'est plus sur l'eau, mais qu'on est dans les airs. C'est un besoin qui va apparaître, celui-ci, pendant le XXe siècle, évidemment, avec l'apparition de l'aviation. Alors, pour calculer ces informations, autrefois, on utilisait beaucoup les astres. Tout d'abord, ça a été sans carte, donc c'est la navigation astronomique sans carte. Et puis, dès qu'on a eu des cartes, on a cherché à calculer latitude et longitude. Les marins étaient les principaux utilisateurs de ces moyens-là. La latitude est très facile à calculer puisque il suffit de connaître la position de l'étoile polaire, quelle est sa hauteur dans le ciel, pour connaître sa latitude. Par contre, il y a pendant très longtemps une information qui a été très compliquée à calculer, c'est la longitude. Parce que la longitude, elle dépend de la rotation de la Terre et du temps. Tout simplement, il faut avoir une information très précise sur le temps au niveau de l'utilisateur pour connaître sa longitude. Et ça a été un défi permanent jusqu'au XVIIIe siècle pour les marins, de connaître leur longitude, en fait.
Marie-Christine Angonin, sur ce positionnement-là qui est au cœur, finalement, de ce dont on va parler aujourd'hui, du fonctionnement du GPS, est-ce qu'il y a eu des développements techniques à la fin, au tournant du 19e et du 20e siècle, qui ont permis, justement, aux marins, puisque c'était essentiellement donc des outils utiles aux marins, de se repérer de façon plus précise, plus technique?
Comme a dit Jean Maréchal, le point clé pour se trouver, se positionner en longitude, c'est vraiment le temps. Donc à partir du 19e siècle, les horloges commencent à être suffisamment précises pour permettre de traverser un océan en étant à peu près tranquille et d'arriver à bon port sans trop se tromper, alors qu'auparavant il y avait eu des catastrophes majeures maritimes qui posaient problème. Et donc à partir du moment où on a commencé à savoir développer des horloges, il y a le suffisamment précise, le positionnement en longitude a été de plus en plus réglé. Et c'est notamment par ce biais, avec le développement à la fin du 19e siècle des réseaux ferrés et des communications, notamment communications hertziennes, qu'un besoin de synchronisation des horloges à l'échelle d'un pays ou d'un continent est apparu. Et ce n'est pas un hasard si c'est à cette période-là que des personnalités comme Henri Poincaré ou Albert Einstein ont commencé à se poser la question: comment peut-on synchroniser des horloges à des échelles aussi grandes et en se déplaçant? Et vous savez à quoi ça aboutit, évidemment, aux problématiques liées à la relativité restreinte puis générale.
Et au développement, bien sûr, postérieur des horloges atomiques dont on parlera dans cette émission, notamment pour le calibrage des GPS et qui a beaucoup d'importance. Jean Maréchal, il y a un autre point. Alors, on évoquait la navigation maritime, une navigation à plat. Au tournant du XXe siècle, on invente les avions. Ça pose un autre problème, justement, pour la localisation de ces engins volants. Comment est-ce qu'on va du coup essayer de positionner ces objets qui peuvent être présents en trois dimensions, si je puis dire?
Alors en fait, l'aviation apparaît en même temps qu'une autre invention qui est la téléphonie sans fil, c'est-à-dire les ondes radioélectriques qui se propagent dans l'air et non plus sur des fils comme autrefois, comme avant sur les réseaux télégraphiques. Et les premières émissions depuis la Tour Eiffel datent du début du XXe siècle. Et en particulier, la première transmission d'un signal radioélectrique qui était une référence de temps, accessible à tous, date de 1910. Et c'est vraiment le tournant où on voit apparaître l'aviation. Et il va se passer un certain temps, et il va malheureusement falloir attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'un certain nombre de systèmes se mettent en place, basés sur les ondes radioélectriques, pour pouvoir localiser les avions de guerre américains et les avions de guerre du Royaume-Uni. Les Allemands essayant aussi en parallèle de leur côté à développer leur propre système. Et ces systèmes, au départ, étaient d'abord des systèmes qui localisaient les avions en deux dimensions, en longitude et en latitude. Pour l'altitude, l'avion continuait à utiliser les méthodes classiques, à savoir un altimètre, qui est en fait un baromètre. Mmh.
Quant à Morcret, ce qui est intéressant dans cette transition progressive vers le GPS, c'est qu'on sent qu'il y a une première dématérialisation un petit peu de l'espace et de la carte. On en fait plus, finalement, un système de coordonnées. Alors vous, en tant que géographe, quel regard vous portez sur justement cette transition-là et ce nouveau rapport à l'espace qui se crée au tournant du XXe siècle ?
Je sais pas vraiment s'il y a ce qu'on peut dire sur ce que je connais, c'est-à-dire les usages cartographiques au XXe siècle. En fait, je pense qu'on sort un petit peu de ce rapport unique à la route, qui était une manière de se déplacer, qui était, on va dire, dominante jusqu'au XIXe siècle pour des raisons plus de disponibilité des informations cartographiques. Et à partir du XXe siècle, en fait, ce qui se développe au début du XXe siècle, c'est la carte routière qui n'existait pas en tant que tel avant, alors sous l'effet de nouvelles mobilités qui sont d'abord les mobilités à vélo puis ensuite les mobilités automobiles, on fait face à de nouveaux besoins et donc on crée des cartes du réseau routier qui vont être les cartes qui vont dominer la production et les usages cartographiques pendant le XXe siècle et en fait qui seront petit à petit remplacées par une carte qu'on peut plus facilement utiliser avec un GPS, si on peut dire, c'est la carte, un retour vers la carte d'itinéraire, comme on la trouve aujourd'hui.
Marie-Christine Angonin, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, là, on parlait des tentatives de précision dans le positionnement. Tout ça a des enjeux d'abord militaires. Là, on parle pas d'un gentil itinéraire sur une route sur la Nationale 7. Là, on parle vraiment au moment de ces guerres mondiales d'avoir des informations aussi précises que sur le positionnement, par exemple, d'avions ou d'engins ennemis. C'est pour ça, par exemple, que se développent des outils comme le radar. Quelle parenté, finalement, vont avoir ces outils-là avec le futur GPS ?
Bien, effectivement, lors de la Seconde Guerre mondiale, le radar a eu une influence clé pour pouvoir positionner les personnes, enfin les ennemis en quelque sorte, et savoir les trouver. Et du coup, ça a permis aussi des développements de technologies autour du radar qui sont utilisées notamment pour développer la constellation Transit. Qui a été la première étape pour avoir un positionnement précis, justement, purement militaire. Cette constellation de 4 satellites a été développée dans un but uniquement militaire et utilisée uniquement militaire.
Bah, puisque vous parlez de la constellation Transit, on va en parler dans un instant.
Arcachon.
Nous n'avons pas compris votre demande, veuillez recommencer.
Arcachon.
Nous n'avons pas compris votre demande, veuillez recommencer.
Arcachon.
Bon, écoute Polo, ça fait 20 ans qu'on fait la route d'Arcachon sans tes GPS, tes satellites et ton TomTom. Alors s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, démarre Gatineau.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
Jean Maréchal, on en vient à présent à cette première constellation Transit qui est un petit peu l'ancêtre du GPS. Alors peut-être, Jean Maréchal, pour aussi préciser un peu les choses, on va utiliser le terme GPS de façon générique pendant toute l'émission, mais on peut quand même rappeler une chose, c'est que le GPS, c'est un peu comme le frigo, c'est d'abord une référence au GPS, au premier GPS américain vraiment efficace qui a été inventé en 1973. Ça, on peut le dire, bon, on s'en sert de façon générique, mais il faut le rappeler.
Oui, GPS, ce sont trois lettres qui veulent dire Global Positioning System, c'est-à-dire en français, service de positionnement mondial. Et le vrai nom du système américain, d'ailleurs, c'était pas GPS au départ, c'était Navstar GPS, mais on a retenu que les trois dernières lettres. Et de fait, aujourd'hui, le système européen, qui s'appelle Galileo, peut être appelé sans aucun problème le GPS européen, le système de positionnement mondial européen.
Voilà pour la petite petite précision, mais si on en revient maintenant aux prémices de ce développement des GPS, ben, c'est dans un contexte aussi bien particulier de conquête spatiale que ça se développe, évidemment. Tout part un petit peu d'un constat, Jean Maréchal, réalisé autour du satellite soviétique Sputnik, qui est lancé en 1957. Quel constat font les techniciens à ce moment-là?
Alors effectivement, Sputnik, c'était un satellite très simple qui faisait une seule chose. Il émettait toujours le même signal sous forme de bip, toujours à la même fréquence. Il était très simple parce qu'il fallait faire vite. Les Américains ont tout de suite évidemment écouté ce signal, et à partir de ce signal, ont recalculé l'orbite du satellite avec des stations dont ils connaissaient la position. Et ils se sont aperçus qu'on pouvait inverser le principe assez rapidement, c'est-à-dire, une fois qu'on a calculé l'orbite du satellite, un récepteur dont on ne connaît pas la position et qui voit passer ce satellite peut en déduire un certain nombre d'informations et calculer sa position avec un effet qu'on connaît sous un nom bien connu, c'est l'effet Doppler, en fait, c'est-à-dire le fait que la fréquence, quand le satellite approche puis s'écarte, va décroître en fait progressivement, mais va pas décroître linéairement, elle va décroître de façon particulière, et on va pouvoir savoir exactement à quel moment le satellite est le plus proche de l'utilisateur. Donc c'est en écoutant Transit que la même année, les Américains ont commencé la même année, donc 1957, le lancement de Sputnik, que les Américains ont proposé à la Navy, la marine américaine, un projet de satellites pour faire de la localisation de sous-marins, notamment, et de bateaux.
Donc là, vraiment, Marie-Christine Angonin, avec Transit naît l'idée de géolocalisation par satellite, et qui est en fait une idée assez simple. Alors c'est intéressant parce que, en fait, finalement, ce qu'on perçoit du satellite, c'est juste une information horaire qui est transformée dans une onde et qui est encodée en binaire, en 0, en 1, et tout ça est la genèse finalement du GPS.
Oui, alors dans le cas de Transit, ce n'est pas forcément une information codée et datée, mais dans le cas du GPS, c'est tout à fait ça, parce que le principe du positionnement n'est pas tout à fait le même. Mais l'intérêt, justement, avec le développement du spatial à la fin des années 60, c'est de voir une manière de se positionner qui va être universelle, quel que soit l'endroit où on va être sur Terre, et quel que soit ce sur quoi on est. C'est-à-dire que encore sur Terre, il y avait des systèmes de balises de type Lorenz et autres qui permettaient de se positionner parce que ces balises étaient fixes. Mais dès que l'on se retrouvait au milieu de l'océan, eh bien, on se retrouvait avec un positionnement beaucoup moins précis. Quoi. Oui, voilà, exactement. Oui. Et donc, d'avoir un satellite, quelque chose qui prend de la hauteur et qui arrose large sur la Terre, si on a suffisamment de satellites, alors ça signifie que tout le monde, quel que soit l'endroit où on sera, pourra se positionner de façon quasiment toujours avec une excellente précision.
Alors là, vous parlez justement de plusieurs satellites. Quelle importance ça a de multiplier les satellites, et combien de satellites ont été envoyés dans le cadre de ce projet Transit ?
Il n'y avait que 4 satellites à ma connaissance, ce qui réduisait quand même énormément les possibilités. Et en fait, pour se positionner, il fallait attendre de savoir où, avoir des informations de plusieurs satellites et d'avoir suffisamment d'informations. Comme disait Jean Maréchal, il fallait attendre de savoir à quel moment le satellite était vraiment au-dessus, enfin au plus proche de l'utilisateur, de déduire de l'effet Doppler la vitesse du satellite pour savoir quelle était son orbite. Et donc, à ce moment-là, de pouvoir se positionner. Donc, c'était quelque chose qui était très lent par rapport à ce que l'on a l'habitude pour les systèmes GPS. Donc, dans les systèmes GPS, il y a eu un principe complètement différent qui a été pris et qui permet un positionnement instantané.
Alors, avant de passer au GPS, justement, Jean Maréchal, Marie-Christine Angonin évoque à l'instant cette lenteur, cette précision un petit peu encore à perfectionner de ce système Transit. Est-ce qu'on a une idée, justement, des performances de cette toute première constellation de satellites de géolocalisation spatiale? Je vais y arriver.
Oui, alors Transit a été en service de 1964 à 1996, et on reviendra sur cette date de 1996 tout à l'heure. Sa précision était de 100 à 200 mètres, à peu près. Donc c'était déjà une étape importante, comme vient de le dire Marie-Christine Angonin. On avait une couverture mondiale avec une précision de 100 à 200 mètres, ce qui était bien meilleur que le système terrestre Omega, qui était aussi mondial, qui était aussi pour les marins à l'époque, mais qui avait une précision de plusieurs kilomètres. Mmh. Et les satellites, par contre, comme l'expliquait très bien Marie-Christine, étaient peu nombreux, et ils étaient en orbite basse, ils étaient à 1000 kilomètres d'altitude, un petit peu plus. Et de fait, il fallait attendre, donc il y avait une latence importante que GPS, en fait, va résoudre. GPS, en fait, va résoudre trois sujets en même temps, qu'on a d'ailleurs un peu retrouvé dans l'interview, dans l'extrait de Théodore Monod tout à l'heure. C'est que GPS est bien un système qui est mondial, qui va apporter une bonne précision, on sait où est une voiture, et puis il est accessible tout le temps. Dès qu'on roule, on n'a pas à attendre, il n'y a pas de latence comme il y avait sur Transit, en fait.
Alors justement, Marie-Christine Angonin, là on parle justement de ce Navstar GPS, de ce premier GPS américain, qui a vraiment marqué aussi l'hégémonie américaine dans ce domaine de façon encore aujourd'hui quasiment indiscutée. Parlons un petit peu de la genèse de ce projet qui est militaire. À nouveau, on le rappelle, c'est pas du tout un projet grand public. Quels ont été les premiers satellites lancés et sur quelle technologie ça se reposait ?
Alors, les premiers satellites lancés ont été lancés à partir de 1973 et nécessité. Donc le principe, c'est d'avoir un signal daté et de mesurer le temps qu'a mis le signal, qui est une onde électromagnétique, qu'elle met pour parvenir jusqu'à l'utilisateur. Ça permet de mesurer ainsi, puisque cette onde électromagnétique va à la vitesse de la lumière, ça permet de mesurer la distance entre le satellite et l'utilisateur. En plus, la vitesse de la lumière étant très rapide, la mesure est quasiment instantanée. Ces satellites nécessitaient. Il a fallu d'abord que la conquête spatiale se fasse pour qu'ils puissent avoir lieu. Donc ça, on en a déjà parlé largement. Mais aussi, il fallait du fait que le temps de propagation de la lumière est relativement court et que l'on veut une précision qui soit en deçà de 100 mètres, il faut donc avoir une possibilité de mesurer un temps très court, d'avoir une précision très courte. Et donc, ça nécessite le développement d'horloges qui soient capables d'aller en deçà de la nanoseconde. Parce que une nanoseconde, ça représente, plutôt de l'ordre de la nanoseconde, puisqu'une nanoseconde, ça représente une précision de 30 cm. Donc, si on veut quelque chose qui soit de l'ordre du mètre, il faut que les horloges soient capables de voir quelque chose qui est en dessous, en quelque sorte. Et donc, là, la seule moyen d'y arriver, c'est le développement des horloges atomiques qui arrivent effectivement à peu près dans la même période.
Jean Maréchal, est-ce que ça veut dire que du coup, dès Navstar GPS, dès ce premier GPS, on avait une très grande précision de ces systèmes de géolocalisation ?
Oui, dès le début, en fait, GPS a été prévu pour avoir une précision de l'ordre de 10 mètres. Et cette précision était d'abord réservée aux signaux militaires. C'était un projet vraiment majeur pour les Américains, puisqu'ils ont lancé 11 satellites de test avant de commencer à lancer les satellites opérationnels. Alors, il me semble, moi, que les premiers lancements ont lieu en 1978 jusqu'à 1986. Donc, il y a eu une phase de maturation pendant presque 10 ans du concept à partir d'une constellation de 11 satellites. Et dès le départ, ils avaient l'ambition d'obtenir ces 10 mètres. Il faut noter aussi qu'en fait, comme le disait aussi Marie-Christine Angonin tout à l'heure, il y a une transition entre Transit justement et GPS, c'est que Transit était basé sur des systèmes qui n'étaient pas numériques, qui étaient analogiques. On écoutait une fréquence et on mesurait un effet Doppler. Avec GPS, on passe un signal qui est tout numérique. Mmh. Et ça, pour l'époque, c'était une avancée très importante.
Une mini-révolution dans la révolution. Marie-Christine Angonin, on a parlé d'effet Doppler. On peut peut-être rappeler deux, trois principes géométriques, physiques, mathématiques à l'œuvre dans le développement de ces GPS. De quoi on a besoin concrètement? On peut parler de triangulation, on peut parler de ces choses-là. Expliquez-nous un petit peu comment, concrètement, ça marche, un GPS, et sur quels principes ça repose.
Bien, pour le GPS, on veut donc se positionner dans l'espace-temps. Donc il faut trois coordonnées d'espace et puis de temps. Donc, effectivement, dans les satellites, il y a des horloges atomiques qui vont être coordonnées par le segment sol, comme on appelle, des constellations GPS, qui va permettre d'avoir une très très grande précision en temps. Mais le récepteur, notre téléphone, notre boîtier dans la voiture, lui, n'a absolument pas la précision d'une horloge atomique. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir l'information du temps qui arrive aussi pour synchroniser, en quelque sorte, l'horloge qui est dans le récepteur et les horloges dans les satellites. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut avoir des informations multiples, donc voir plusieurs satellites. Et le fait qu'il y ait au moins 24 satellites dans une constellation assure le fait que, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on aura au moins 4 satellites, puisqu'il y a 4 coordonnées à faire pour pouvoir faire une mesure. Dans les faits, il faut bien plus que 4 satellites pour avoir la mesure, parce qu'il y a des effets de bruit, d'incertitude, etc.
Et alors, en quoi justement cette présence de 4 satellites va nous permettre d'avoir toutes ces coordonnées réunies? Si on revient au principe de la triangulation, qui est un principe assez simple, mais qu'on peut peut-être expliquer, parce que ça nous permet quand même de saisir ce qui va faire qu'à un endroit donné, le satellite va pouvoir nous envoyer une information qui nous permettra de nous localiser de façon précise.
Donc, l'utilisateur... Le satellite envoie une information permanente, une information qui est datée et cryptée, et dans le cryptage, la date est présente. Et donc, ce que fait l'utilisateur, c'est qu'il reçoit l'information du satellite. Il n'y a pas de dialogue, hein, c'est uniquement dans un sens. Et l'utilisateur donc reçoit ce signal et peut mesurer ainsi le temps qu'a mis le signal pour aller du satellite à l'utilisateur. Ce signal, comme je l'ai dit tout à l'heure, est allé à la vitesse de la lumière, donc on peut en déduire la distance entre le satellite et l'utilisateur. Mais donc, il voit que autour de lui, il a un certain nombre de satellites qui sont à une certaine distance. Pour pouvoir en déduire son propre positionnement, il lui faut d'une part une information de la carte locale, évidemment, donc de la position de la Terre, mais surtout de la position des satellites. Et donc, il y a des nécessités de connaître la position, donc l'orbite des satellites. Et en plus, il leur faut la vitesse. Pourquoi il faut la vitesse? Bien parce que quand on fait des mesures à la vitesse de la lumière, on est soumis aux incertitudes relativistes. Et pour pouvoir compenser les effets de la relativité, on est obligé de prendre en compte le fait que le satellite bouge par rapport à l'utilisateur.
On est soumis donc à cette donnée que vous évoquez à l'instant. On est soumis aussi, Jean Maréchal, à d'autres types de perturbations qui sont propres à l'atmosphère terrestre. Alors comment est-ce qu'on pallie, par exemple, le fait que l'ionosphère terrestre va filtrer certaines longueurs d'onde plus que d'autres et du coup modifier la précision de ce signal GPS?
Alors effectivement, les informations qui sont transmises par les satellites donnent leur position en fait, ils expliquent, enfin chaque satellite dit où il est, ce qui va permettre, comme l'expliquait Marie-Christine Angonin, à l'utilisateur, lui, à savoir, de pouvoir calculer sa position. Et d'ailleurs, petit point de langage, on parle pas de triangulation, puisqu'on n'est plus dans une mesure d'angle, mais on parle de trilatération, dans notre jargon à nous, qui est un positionnement à partir de mesures de distance. Les informations reçues du satellite sont pas toujours parfaites. Ce sont des prédictions qui sont faites par un segment sol très compliqué au niveau du GPS, comme au niveau de Galileo, puisque le satellite ne calcule pas lui-même sa position, il la reçoit d'un segment sol, et son horloge est remise aussi à l'heure à partir de ce segment sol. Donc déjà à l'intérieur des informations reçues de la constellation, il y a déjà quelques erreurs qui sont... ou imprécisions plutôt, qui vont forcément se retranscrire dans la position. À cela s'ajoute la traversée de l'atmosphère, et comme vous l'expliquiez, on traverse une couche qui est pleine d'électrons, qui s'appelle l'ionosphère, qui est située aux environs de 1000 km à peu près, et un peu en dessous, et en fonction de la densité d'électrons, les ondes électromagnétiques vont être réfractées, c'est-à-dire un petit peu comme la lumière dans un verre d'eau. Elles vont pas aller tout droit, elles vont aller en faisant une sorte de coude, et du coup, le trajet va se rallonger. Et ça, c'est embêtant, puisque on est en train de mesurer une distance, donc on va mesurer une ligne qui n'est plus droite, et la mesure va être fausse. L'intérêt, par contre, qu'on a vite réalisé, c'est que les fréquences sont toutes déformées de façon différente. Pour résoudre ça, GPS, d'abord pour les signaux militaires, puis pour les signaux civils, va utiliser deux fréquences différentes qui sont émises en même temps, avec les mêmes signaux quasiment, et qui permettent à ce moment-là de calculer cette erreur de la ionosphère, et de soustraire des calculs et d'avoir une meilleure position.
Et d'avoir une précision de l'ordre du centimètre, je crois, Marie-Christine Angonin. Alors tout ça, c'est, on le dit, réservé aux militaires. Je crois que c'est pas dans nos objets du quotidien, on n'a pas une précision au centimètre, on s'en rend déjà un petit peu compte, parce que ça a un coût aussi, évident, d'établir cette précision-là.
Alors, ça a un coût d'établir cette précision-là, dans le sens où il faut accumuler les données pour arriver à des précisions aussi fortes, qui sont utilisées, par exemple, dans les géosciences pour mesurer la tectonique des plaques ou les boursouflements des volcans ou les séismes. Là, il y a besoin d'accumuler les données et donc ce ne sont pas des précisions que l'on acquiert instantanément. Instantanément, pour l'usage commun, on est de l'ordre en dessous de 10 mètres, 5 mètres par là, enfin quelques mètres, ce qui est largement suffisant quand on veut aller rendre visite à un collègue au coin de la rue.
Oui. Jean-Maréchal, alors peut-être que là on bascule déjà un tout petit peu dans la seconde partie de cette émission, donc on va pas prendre trop d'avance, mais peut-être qu'on peut évoquer les domaines, les mondes dans lesquels ce système de géolocalisation était utilisé en routine. C'était essentiellement l'armée avant le passage au grand public, ou bien est-ce que quand même dans certains secteurs maritimes, aériens, on l'avait intégré déjà?
Alors effectivement, quand le système GPS a démarré, il avait la particularité d'avoir un signal qui était émis en clair, parce qu'en fait, les militaires ne pouvaient pas décrypter leurs signaux qui étaient très très bien codés sans avoir une référence de temps même dégradée. Et donc, GPS a toujours transmis un signal qui était lisible de tout le monde, mais qui était au départ volontairement dégradé par une information qu'on appelle la selective availability, c'est-à-dire l'accès sélectif, qui interdisait aux personnes qui n'avaient pas tous les codes, interdisait d'aller plus loin. Et ce signal dégradé donnait quand même une précision. Il donnait quand même une précision de l'ordre de quelques centaines de mètres. On retrouve la précision qu'on avait sur Transit à l'époque. Par contre, on s'est assez vite aperçu que, un petit peu comme pour Spoutnik au début, si des stations fixes écoutaient les signaux GPS, ils étaient tout à fait capables d'identifier quelles étaient ces dégradations, de les calculer, et de les retransmettre à d'autres utilisateurs qui pouvaient les intégrer dans leur calcul et à ce moment-là obtenir un positionnement de bonne qualité. Donc on s'est assez vite aperçu que la protection qu'avaient mis les Américains pour que la précision soit dégradée à 100 mètres, voire un peu plus, finalement, elle n'était pas très utile. Et justement, l'aviation civile qui avait besoin de ces signaux avait commencé à mettre en place des systèmes régionaux. Le système régional européen s'appelle EGNOS, le système américain s'appelle le WAS. Il y a d'autres systèmes qui ont été développés en Asie ou en Inde, Et ces systèmes-là corrigeaient d'eux-mêmes ces dégradations. Mmh. Et il s'est passé quelque chose dans l'esprit des autorités américaines qui ont fait le choix de supprimer cette dégradation au mois de mai 2000, en fait. L'annonce avait été faite à l'époque par Ronald Reagan. Et il avait justifié cette levée de la dégradation, donc une précision accessible à tous. À l'époque, GPS était précis à peu près à 10 mètres, suite à un événement qui avait eu lieu, un événement très très dramatique.
Alors, n'en dévoilez pas plus. N'en dévoilez pas plus, parce que justement, cet événement un peu dramatique qui a un lien avec l'aviation civile, on va en parler dans quelques instants et on écoutera une archive même qui sera liée à cet événement-là. Ce sera juste après ça.
Show me the way to go home. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little drink about an hour ago and it's gone straight to my head. Wherever I may roam, on land or sea or foam, you can always hear me singing a song. Show me the way home.
Show Me the Way Home par Julie London dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention du GPS et nous en parlons avec Marie-Christine Angonin, professeure de physique à Sorbonne Université, membre du laboratoire système de référence temps et espace à l'Observatoire de Paris. Nous sommes également en studio avec Quentin Morcrette, docteur en géographie, enseignant-chercheur contractuel à Cergy Paris Université et membre du laboratoire Place. Et nous sommes en ligne avec Jean Maréchal, responsable du programme Navigation au CNES, Jean Maréchal, qui évoquait juste avant cette interlude musicale un événement dramatique. Je vous propose d'écouter cette archive de 1984, issue de Interactualité.
Des révélations sur l'affaire du Boeing sud-coréen abattu il y a 6 mois par la chasse soviétique et qui avait fait 269 morts. Un rapport technique qui explique que c'est une erreur de navigation, une erreur humaine, qui est à l'origine du drame. Pendant 4 heures, les pilotes du Boeing ont fait entièrement confiance, aveuglément confiance, à leur système de navigation automatique. L'un des auteurs du rapport, Jean Fournier, un ancien pilote, au micro de Michel Polacco.
Tous les moyens automatiques utilisés à bord des avions modernes sont tellement précis qu'il s'instaure un état de surconfiance, qui fait qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de traversées, on s'aperçoit que ça marche tellement bien qu'on laisse un petit peu de côté la partie contrôle. Il y a de temps en temps des rappels à l'ordre par les dirigeants de toutes les compagnies qui font que les pilotes s'astreignent à ce contrôle. Malheureusement, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle une bavure, mais c'est très malheureux, il ne faudrait pas qu'il y en ait souvent.
Voilà Jean Maréchal, je vous ai coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, je vous redonne la parole et je vous propose de réagir à cette archive. Et est-ce que c'est vraiment cet événement-là, donc cet avion sud-coréen qui survolait par erreur l'espace soviétique et qui a donc été abattu par les forces armées soviétiques en pleine guerre froide, faut-il le rappeler, est-ce que c'est vraiment ce crash-là qui a fait... qui a conduit en tout cas les États-Unis, le gouvernement américain, à considérer l'ouverture du GPS et des données de géolocalisation à un plus grand public, à commencer par l'aéronautique et les avions.
Mais en fait, ce n'est pas que ça. Mais on perçoit déjà, en fait, avec cette décision, d'ailleurs, la décision a été prise. On peut pas forcément parler de décision, puisqu'en 1983, quand l'événement a eu lieu, et que Ronald Reagan a dit le système GPS américain devrait être ouvert aux usages civils, le système ne fonctionnait pas encore, puisque le système est devenu opérationnel pour les militaires en 1994, 10 ans plus tard. Mais ils avaient donc prévu ce signal qui était accessible aux civils, comme je le disais tout à l'heure, et qui était volontairement dégradé. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que cette dégradation, finalement, les utilisateurs allaient arriver à la contourner. Et donc la vraie décision au mois de mai 2000 a été de dire, finalement, non seulement les utilisateurs ont besoin de se positionner à 100 mètres près, mais ils ont même besoin d'avoir la meilleure position possible. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il n'y a pas que les militaires qui ont besoin, qui sont, comment dire, addicts à
la précision,
la navigation et au positionnement précis. Tout l'usage civil, que ce soit pour des usages critiques comme l'aviation, que ce soit pour l'industrie, mais aussi nous, aujourd'hui, on devient addict à la précision. GPS aujourd'hui est précis à 2 mètres, Galileo est précis à 1 mètre, on est devenu addict, et tout à l'heure vous parliez d'une précision à 1 cm, alors c'est possible avec GPS et Galileo, en rajoutant des informations, qu'on appelle des informations de positionnement très précis, avec des récepteurs qui sont très particuliers, des récepteurs professionnels, et qui sont utilisés par les gens de la géodésie, évidemment, mais les gens du BTP aussi, et les gens de l'agriculture. Il y a un certain nombre de machines agricoles qui fonctionnent avec des localisations très précises lorsqu'il s'agit de faire des semis ou des choses comme ça, grâce à ces systèmes professionnels. Donc, les Américains avaient eu cette intuition, mais la vraie mise en œuvre, en fait, de cette volonté d'avoir un système civil, elle est apparue avec Galileo. Aujourd'hui, GPS est encore opéré par des militaires. Derrière les consoles informatiques, là, ce sont des gens en uniforme qui travaillent et qui fournissent le signal GPS. Dès le début, l'Union européenne a dit « Galileo sera un système civil, certes avec des signaux militaires, mais il sera d'abord prévu pour les civils et on va dès le début prévoir les meilleurs signaux possibles pour les civils. »
Et on parlera bien évidemment tout à l'heure de ces multiples constellations qui se sont développées parmi les puissances mondiales et avec bien sûr ce système Galileo sur lequel on s'attardera un peu plus longuement. Marie-Christine Angonin, cette ouverture du GPS aux civils et à nous autres, Pékin lambda, quelles conséquences ça a immédiatement? Est-ce que finalement ça infuse de façon extrêmement rapide dans les nouvelles technologies et dans nos rapports à l'espace et à notre environnement?
On l'a tous vécu. Hein. Ça arrive très 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 vite. D'abord par le biais de boîtiers de positionnement que l'on met dans nos voitures, mais avec la manière dont la popularité des téléphones portables et en particulier des smartphones, le positionnement par GPS devient utilisé, mais de façon quotidienne et même plusieurs fois dans la journée.
Quant à Morcred, ce qui est intéressant, c'est que Marie-Christine Angonin évoquait ces boîtiers de géolocalisation dans les automobiles, dans les voitures. On pense par exemple à cet outil TomTom qui était un peu l'outil emblématique de tout ça. C'est intéressant de rappeler que c'est avant tout un outil cartographique, un outil de carte, que finalement il y a des cartes qui sont intégrées à ce système-là et qu'ensuite le GPS va nous permettre de nous pointer sur cette carte-là.
Ouais, ce qui me semble intéressant, c'est finalement de pointer le fait que le GPS rend possible une sorte de vieille lubie des cartographes qui serait finalement de pouvoir associer très très parfaitement l'utilisation d'une carte pendant une phase de mobilité et le fait de pouvoir continuer à se déplacer en permanence. Et ça, c'est quelque chose d'assez ancien. Par exemple, vers l'an 1000, les civilisations chinoises inventaient l'odomètre. Donc, l'odomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer les distances le long d'une route. Hein, et donc, en accrochant ça à une charrette, l'idée, c'était qu'on pouvait savoir en permanence combien de distance on avait parcouru. Puis, à partir du début du XXe siècle, les années 1910-1920 sont très très riches en lien avec la navigation automobile, avec de nouvelles innovations qui se présentent presque comme l'ancêtre des cartes assistées de la technologie GPS. On met en place, par exemple, je crois que c'est en Angleterre, une carte qui s'appelle John Lives Map, qui est une carte qui est donc associée à un odomètre différentiel qui permet, en gros, fixé sur une voiture, qui permet à n'importe quel conducteur de savoir la distance qu'il a parcourue et qui, en même temps, par un ingénieux système, fait tourner la carte en fonction du trajet qui est parcouru par la voiture. Puis, dans les années 1970, on met en place, toujours avec ce système d'odomètre et de navigation à l'estime, donc qui n'est pas encore basé sur le GPS, des techniques, des ancêtres de logiciels comme Karin ou ETAC, qui sont des systèmes un peu basiques de navigation intelligente, qui se développent, qui sont pas basés sur le GPS, mais qui quand même permettent à l'utilisateur d'avoir finalement en temps réel sa localisation et du coup des informations routières. Et puis, voilà, donc à partir du début, on va dire, des années 2000, il y a une massification de l'usage civil du fait de la fin de la selective availability, une massification de l'usage civil et cartographique du GPS, et donc qui permet à n'importe quel utilisateur lambda de connaître avec précision, en temps réel, sa position sur la carte. Et donc finalement, c'est presque, on peut presque le voir comme un aboutissement de quelque chose qui est à l'œuvre depuis, on va dire, enfin, en tout cas, qui est recherché depuis assez fortement depuis les débuts de l'ère automobile au moins.
Jean Maréchal, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, les premiers récepteurs GPS étaient visuellement très pauvres puisqu'ils donnaient des coordonnées x, y, z, enfin latitude, longitude, altitude, mais on n'avait pas les moyens à l'époque d'avoir des cartes numériques embarquées. Les premiers récepteurs, notamment militaires, avaient une interface très 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 limitée. Et c'est cette capacité, comme le disait très bien Quentin Morcrette, de voir que tout le monde, finalement, peut disposer de ses coordonnées, mais qu'il a besoin de les utiliser. Pour ça, il a besoin d'une carte qui a vu l'avènement de la carte numérique. La carte numérique qui est devenue quelque chose qu'on consomme de façon, mais sans même s'en rendre compte, de façon énorme, que ce soit pour faire des déplacements en voiture ou des randonnées. C'est devenu quelque chose qui doit être disponible comme tout le reste, et si possible gratuitement. Ça a vraiment rendu massif l'usage public et gratuit des fonds cartographiques numériques.
Marie-Christine Angonin, vous n'êtes pas ingénieure en téléphonie, mais qu'est-ce qui, dans mon smartphone, me permet de me repérer au coin de rue près ? Est-ce qu'il y a un outil là-dedans, ou qu'est-ce qui est émis par mon smartphone en direction de la constellation de satellites, alors Galileo, que ce soit Galileo ou GPS, parce que bien sûr, ça, on peut le rappeler aussi, on peut utiliser des données de différentes constellations de satellites de géolocalisation en même temps, et qu'est-ce qui va me permettre dans ce téléphone-là de me repérer dans l'espace ?
Bien, le téléphone a un récepteur GPS comme les TomTom dont on parlait tout à l'heure, et qui est compatible. Alors ça, c'est un point qui est très très fort, c'est que toutes les constellations sont compatibles. Donc le téléphone, le smartphone dont on dispose, va utiliser les données de n'importe quel satellite, quelle que soit la constellation. D'ailleurs, il existe des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permettent de voir en direct quels sont les satellites que vous voyez, que vous allez utiliser pour votre positionnement, et qui vous disent quelles sont les constellations qui sont présentes. Et vraiment, Elles sont là. On voit des petits drapeaux. C'est tout à fait spectaculaire. Alors ça permet de faire le positionnement avec le téléphone, mais en général, ce n'est pas complètement satisfaisant parce que quand on est dans une ville, on va avoir des immeubles qui vont masquer certains satellites, où il va y avoir des réflexions multiples qui vont du signal GPS et qui vont faire que la précision va peut-être pas être suffisante. Et donc les smartphones en général doublent leur mesure GPS de dialogue avec les différentes antennes qui existent, qui leur permettent de se localiser. Et donc, le GPS, c'est vraiment un satellite qui envoie un signal et le téléphone reçoit le signal. Donc, il n'y a absolument aucun dialogue.
Aucun enregistrement de la part du satellite de nos informations personnelles, etc. Il n'y a pas de traçage par les satellites de nos vies quotidiennes. Le satellite s'en fout, concrètement.
S'il y a traçage, c'est au niveau du téléphone avec ses stations relais qu'il y a autour de lui. Et c'est le fameux bornage dont on entend parler dans les enquêtes policières ou je ne sais quoi. Voilà.
Jean Maréchal ?
Oui, et pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est bien parce que les satellites ne font qu'émettre et qu'ils n'écoutent rien, qu'on peut avoir au sol des milliards d'utilisateurs sans que le système ne sature à aucun moment.
Bien sûr, mais parce qu'on imagine difficilement effectivement des milliards de connexions sur un pauvre petit satellite qui serait évidemment immédiatement saturé. Quant à Morcrette, d'un point de vue concret, qu'est-ce que le GPS a radicalement changé dans notre rapport à l'espace, à la carte, à notre position dans l'espace techniquement?
Alors, pour réagir à ce qui avait été à l'enregistrement de Théodore Monod en tout début d'émission, en effet, qui disait aujourd'hui on ne peut plus se perdre. Alors, d'un point de vue très 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 on va dire au pied de la lettre, on ne peut plus se perdre dans le sens où on est littéralement le centre de la carte en permanence, dès lors qu'on utilise la carte en association avec le GPS toujours. On ne peut plus se perdre en tant qu'on est le centre de la carte, donc le centre du monde tel qu'il est représenté sur notre téléphone. Mais par contre, on peut toujours se perdre si la carte n'est pas bonne, et c'est arrivé, je pense, à tout le monde de se retrouver à avoir pris finalement
une route
qui n'était pas forcément la bonne et de se retrouver pas sur la bonne route. Mais on va dire que il me semble dans la mesure où l'utilisation du GPS avec la cartographie numérique favorise l'utilisation d'itinéraires et finalement met en marge l'utilisation de la carte sous forme de réseau. Donc la carte n'est plus utilisée sous forme de carte routière. Et qu'est-ce qu'une carte routière si ce n'est la carte d'une infinité de réseaux? enfin d'une infinité d'itinéraires, pardon. Donc en ce sens, il me semble que nos mobilités sont aujourd'hui beaucoup plus contraintes. Alors déjà, on a tendance à utiliser, comme le disait Jean Maréchal, massivement la cartographie d'itinéraire. Et cette cartographie est extrêmement centrée non seulement sur l'individu, mais en plus centrée sur l'itinéraire. Donc les études montrent que, je sais pas si j'anticipe peut-être, non, ça va,
c'est pas. Allez-y, allez-y.
Les études montrent que finalement, on perdrait une forme de sens spatial, puisque lorsqu'on fait des comparaisons, par exemple, on propose deux cheminements similaires. Je reprends le travail de collègues qui se reconnaîtront. Si on propose deux cheminements similaires à plusieurs personnes et un cheminement doit être fait en utilisant par exemple le plan d'une ville et l'autre groupe de personnes doit utiliser un itinéraire, on se rend compte que les personnes qui utilisent le plan de la ville vont avoir un cheminement un petit peu plus libre que ceux qui utilisent l'itinéraire. Et dans un deuxième temps, si on demande aux personnes qui ont suivi l'itinéraire de rendre compte de l'itinéraire qu'ils ont suivi, on a beaucoup plus de mal à décrire l'espace alentour lorsqu'on a suivi un itinéraire justement préconçu, préconisé par une carte numérique, alors qu'on a beaucoup plus au contraire de facilité à le restituer lorsqu'on a utilisé une carte papier, tout simplement du fait qu'on a une attitude active envers l'information cartographique, alors que sinon on est plus dans une attitude passive. Donc ça, je pense que ça, enfin les études montrent que ça a tendance à modifier en fait assez profondément notre rapport à l'espace, qui est un rapport qui se veut à la fois plus passif et beaucoup plus guidé et finalement presque moins libre. Et comme le suggéraient des collègues dans une étude en 2018, c'est vrai que l'itinéraire qu'on demande, ou l'itinéraire qui nous est donné lorsqu'on demande un trajet d'un point A vers un point B, c'est toujours l'itinéraire le plus rapide. Alors que pourquoi pas l'existence de d'itinéraires bis, d'itinéraires les plus verts, les plus avec les meilleures vues, et des itinéraires les moins suivis. Donc voilà, il y aurait potentiellement de quoi finalement augmenter le degré de liberté de l'itinéraire, quoi.
C'est intéressant de se dire qu'on a gagné finalement en efficacité, mais qu'on a perdu en liberté, et le tout en plus lié au fait que ce soit l'individu, la personne qui soit au centre de la carte, et que c'est plus une carte ouverte où on avait le loisir de se paumer comme il fallait. Marie-Christine Angonin, on doit avancer un petit peu dans l'évolution de ces GPS, et puis peut-être parler du fait que c'est devenu un enjeu stratégique majeur, un enjeu de souveraineté majeur. En témoigne le développement de nombreuses constellations, alors nombreuses relativement à l'échelle du nombre de pays qu'il y a dans le monde, mais en tout cas chaque puissance mondiale veut avoir sa constellation de satellites GPS. Pourquoi?
Pourquoi? Bien, tout simplement, on peut raisonner d'un point de vue militaire, on peut raisonner d'un point de vue économique. À partir du moment où toute l'activité humaine stratégique est liée au positionnement et devient dépendante du positionnement, eh bien, on va avoir besoin de pouvoir être indépendant. Et donc, la suprématie des Américains a vite été doublée par l'Union soviétique qui a développé GLONASS. Et entre les deux, l'Europe a voulu assez vite se positionner en cherchant à faire Galiléo. Seulement, le problème, c'est que ça a pris quand même pas mal de temps. Ouais. Et puis, eh bien, maintenant, on voit poindre, il y a Beidou qui s'est développé en Chine, on voit poindre le Japon, l'Inde. À chaque fois, maintenant, le cœur de la stratégie et de la suprématie, d'une forme de suprématie, c'est d'avoir l'outil de positionnement.
Jean Maréchal, puisqu'on parlait tout à l'heure et que Marie-Christine Angonin l'évoque à l'instant, la constellation Galiléo de l'Union européenne, cette constellation-là, quels en sont les principes? Et je crois que Marie-Christine Angonin évoquait le fait que ça avait mis un peu de temps avant de se mettre en place. On en est où de ce développement et de ce lancement?
Alors, je commence par la fin de la question. Galiléo est opérationnel depuis 2016. Et depuis 2016, la constellation est complétée. Et il y a quelques mois, on a lancé les 23e et 24e satellites. C'était en décembre 2021, depuis Kourou. Et donc aujourd'hui, on a une version de la constellation qui est presque correcte. Il y a encore des satellites qui sont pas tout à fait sur la bonne, enfin qui sont pas. Il y a encore des trous vides et des endroits où il y a des redondances, mais ces choses-là vont être remplies et comblées en 2023. Galileo fonctionne. Mmh. Et comme le disait tout à l'heure Marie-Christine Angonin, tous ceux qui disposent d'un téléphone sur Android peuvent télécharger des applications. Et la majeure partie des téléphones aujourd'hui en service reçoivent les quatre constellations. Donc évidemment la constellation américaine GPS, aussi la constellation européenne Galileo, la constellation russe GLONASS et la constellation chinoise qui s'appelle Baidu. Et donc on voit apparaître une vingtaine ou une trentaine de satellites dans les informations reçues par la puce GPS de nos téléphones. Donc aujourd'hui, le système Galileo fonctionne, et il fonctionne même mieux que GPS, puisque dès le début, comme je le disais tout à l'heure, il a été prévu pour fournir le meilleur possible, même aux civils.
Oui.
Et la façon dont il est conçu, l'architecture notamment du segment sol, le rafraîchissement des éphémérides qui sont transmis aux satellites pour que la position des satellites soit la meilleure possible, fait que Galileo est le système le plus précis au monde aujourd'hui, avec un mètre de précision, deux fois meilleur que GPS. Mmh. Ça, c'est factuel, hein. Des choses qu'on mesure nous tous les jours au CNES. Et ça vient pas de nulle part, ça vient simplement du fait que les informations transmises par les satellites sont plus précises. Aujourd'hui, on transmet des orbites qui sont précises à environ 10 à 20 cm près.
Voilà. Pour mettre en place Galileo, Jean Maréchal, je crois que l'Union européenne a dû faire quelques concessions auprès des Américains. Alors de quelle nature ont été ces concessions? Et puis voilà, pourquoi les Américains ont quand même tenu à rappeler que ils étaient un peu leaders dans le domaine?
Alors, les Américains, en fait, il a fallu se mettre d'accord avec les Américains sur les fréquences, puisque tous ces systèmes peuvent partager les mêmes fréquences. C'est le cas pour les signaux civils, pour la plupart du temps, puisque les satellites émettent sur la même fréquence grâce à ce qu'on appelle un accès par multiplication, par division de code, le CDMA. Et donc, sur les signaux civils, on n'a pas eu trop de mal à se mettre d'accord, puisque le but, justement, est de partager les fréquences pour que les utilisateurs aient le plus grand nombre de satellites visibles. Mmh. Par contre, lorsqu'on commence à parler des signaux militaires, c'est plus compliqué. Il a fallu se répartir les zones de telle sorte qu'on ne se gêne pas en cas d'action militaire où on voudrait effectivement agir sur les fréquences, certaines fréquences et pas sur d'autres. Ça a été une discussion qui a eu lieu au début des années 2000, dans laquelle le CNES a été fortement impliqué, des collègues du CNES ont été fortement impliqués, et la Commission européenne aussi a été fortement impliquée. Galileo, on a commencé à poser les prémices de Galileo à la fin des années 90, et c'est vraiment dans les années 2000 que la conception s'est mise en place. Mmh. Les deux premiers satellites de test ont été lancés en 2005 et 2008, pour vous donner un ordre de grandeur. Et la constellation a commencé à se déployer à partir de 2011. Et on est en phase de finale, en fait. De ce premier cycle.
Puisque ce premier cycle sera clos, je crois, en 2023, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. En fait, alors là, la guerre en Ukraine est venue s'inviter chez nous, puisque un certain nombre de satellites Galileo sont lancés depuis Kourou, mais sur le lanceur Soyouz, puisqu'il y a un accord, il y avait un accord entre Roscosmos et Arianespace, qui permettait au lanceur Soyouz d'être lancé depuis Kourou, ce qui présente un certain nombre d'avantages, parce qu'on est tout près de l'équateur. Mmh. Et la guerre en Ukraine a suspendu deux lancements Galileo, qui devaient avoir lieu en avril 2022 et en octobre 2022, chaque lancement en portant deux satellites. Donc 2022 va nous mettre en retard de 4 satellites. Et en fait, on attend évidemment la solution européenne, Ariane 6,
oui,
qui va être disponible à partir de mi-2023.
Et on suivra bien évidemment
le remplissage de la constellation.
Et on suivra bien évidemment ce lancement de Galileo. Je dois vous interrompre puisqu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois, Marie-Christine Angonin, Jean Maréchal et Quentin Morcrette, de nous avoir tracé l'itinéraire de cette courte mais intense histoire du GPS. Sakaïké par Madalid Soband pour finir en musique cette émission. Un grand merci à toute l'équipe d'Eureka. La technique aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.